Le hérisson qui est aussi très utile dans les jardins. Bonjour Alain Baraton.
Bonjour, qui est même le symbole de ma profession avec le petit rouge-gorge, le hérisson, qui est un animal qu'il faut protéger absolument, d'où l'intérêt en hiver de ne jamais brûler les tas de déchets au fond du jardin. Souvent, les hérissons en profitent pour y nicher. Le hérisson se nourrit de quantité d'animaux nuisibles et pour les hommes et pour le jardin. Il faut les aimer.
Alain Baraton et sa main verte. On va parler de l'orchidée ce matin. L'orchidée fantôme. Elle est devenue si rare qu'elle fait la fortune des pilleurs de la nature.
Et oui, de son vrai nom Dendrophyllax linnedi, cette orchidée ne pousse que dans les marais de Floride, de Cuba et aux Bahamas. Elle a besoin pour se développer de s'accrocher aux arbres et de vivre en symbiose avec un champignon, faute de quoi elle ne pourrait pas se nourrir. Cette orchidée ne produit ni tiges ni feuilles et elle ne fleurit qu'une fois par an. Elle a été tellement prélevée pour être vendue qu'elle est aujourd'hui sur la liste des plantes en grand danger d'extinction.
Il y a peut-être intérêt du coup à la produire en laboratoire ?
C'est ce que tentent de faire les botanistes, mais il s'avère que si les graines germent normalement en laboratoire, il est ensuite très difficile de conserver les plants, même dans les serres. Fort heureusement, des essais de réintroduction de cette orchidée dans son milieu naturel semblent depuis quelque temps donner quelques résultats encourageants.
Et encore une petite question, pourquoi est-ce qu'on l'appelle orchidée fantôme ?
Pour se fixer sur les arbres, elle produit des racines d'où s'échappent des fleurs blanches de 3 à 5 cm de diamètre. Ces fleurs semblent flotter dans l'air et l'effet est d'autant plus saisissant que la pénombre qui règne dans les sous-bois met vraiment en valeur ces fleurs d'un blanc immaculé.
Alain Baraton, vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter. Mel et Damien, ils ont un jardin où trône un noyer centenaire, mais ils ont entendu dire qu'il n'était pas bon de rester sous cet arbre, même quelques instants, puisque les feuilles du noyer libéreraient des substances nocives.
Mais oui, on dit ça.
On ne parle pas de conditionnel. Il est avéré que le noyer produit de la juglone, qui est une substance qui rend pratiquement impropre à toute, qui stérilise en quelque sorte le sol, pour empêcher toute concurrence végétale trop près de son tronc. Le noyer est un solitaire qui n'aime pas être trop approché. On disait autrefois que le noyer était l'arbre du diable. Il paraît que si on y faisait la sieste, enfin sous ses branches, on se réveillait avec un mal de crâne puissant. Je ne peux pas garantir, je n'ai pas testé. On a raconté tout et n'importe quoi. Alors peut-être qu'effectivement, il est déconseillé de dormir sous un noyer, je dis bien peut-être. Moi j'ai appelé le centre anti-poison qui eux m'ont répondu, je parle des scientifiques, qu'à ce jour, ils n'avaient, eux, aucune intervention faite sous un noyer après que quelqu'un se soit endormi.
Alors moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai pique-niqué sous des noyers, oui, en Dordogne, il ne m'est rien arrivé. En revanche, ça ne protège pas très bien du soleil.
Oui, on parle de l'ombre froide, d'où la deuxième des raisons, effectivement.
Ça ne nous met pas à l'abri du soleil du tout.
Par contre, j'en profite pour rappeler que les feuilles de noyer, effectivement, sont toxiques. On ne les mettra pas comme litière pour les animaux, et en particulier les équidés. On évitera également de trop en mettre dans le tas de compost.
Christine, à propos de son très beau cognassier, dit-elle. Très beau, mais tous les ans, les coins deviennent véreux. Comment faire pour empêcher
ça ? Les carpocaps, ce sont des petits papillons nocturnes qui viennent pondre leur larve dans le fruit qui se développe et qui se nourrissent du cognassier. Il existe des pièges à phéromones. Les pièges à phéromones, je trouve ça amusant, ce sont des perturbateurs sexuels. En un mot, pour faire très simple, on y met une substance qui affole complètement les mâles qui viennent s'agiter pour rien pendant qu'ils s'agitent dans le piège à carpocaps. La reproduction ne peut pas avoir lieu, et on arrive comme ça à protéger la culture.
On peut mettre écolo. Un voile aussi, non ? Ça se fait
non,
pas.
Non, parce qu'ils sont tellement, ces papillons sont tellement petits qu'il faudrait vraiment rendre complètement étanche le fruitier, ce qui est totalement impossible.
Toujours Christine, la même Christine, elle a un cognassier et elle a aussi un sureau qui fait de belles fleurs, dit-elle, mais jamais de fruits. Et pourquoi ?
En général, je dis bien, en général, quand un arbre fruitier ne produit pas de fruits et qu'il a fleuri, cela peut être dû à des gelées printanières. La fleur est formée, le froid arrive, boum, la fleur devient stérile. À des pluies torrentielles, lorsque les organes sexuels de la fleur sont prêts à la fécondation, les pluies vont lessiver le cœur de la fleur et empêcher, là encore, la fécondation. Et puis, en été, il peut y avoir un manque d'eau, une sécheresse trop longue, des animaux qui viennent, comme les carpocaps, faire encore un petit peu, régler les ordres.
Ou un manque d'insectes pollinisateurs, ou pas ?
Oui, tout à fait aussi. Bravo Karine. Donc, quantité de raisons qui peuvent effectivement expliquer pourquoi une plante couverte de fleurs ne fructifie pas.
Marin et ses pieds de clématite. Je n'arrive jamais à conserver les pieds de clématite, dit-il. Toutes les feuilles sèchent, les plantes finissent par mourir Pour quelle raison ?
Ascochyta, c'est une maladie cryptogamique, c'est un champignon qui effectivement détruit les clématites, mais en quelques jours seulement. C'est très décourageant. Vous avez une clématite, vous venez de la planter, elle est très belle, nous sommes au printemps, elle grimpe, elle est merveilleuse, et d'un seul coup, partant du haut, en descendant par le bas, la plante sèche. C'est ce champignon qui est favorisé par une terre non drainée, et vraiment l'excès d'humidité. Donc un, si cela vous arrive, il faut immédiatement supprimer la plante, parce qu'elle est très contagieuse. De supprimer la terre avant de replanter une autre orchidée, faute de quoi le phénomène va se reproduire. Mais donc c'est un champignon maladie cryptogamique qui est lié à la présence de trop d'eau dans la terre.
Mais assez rare, non ? Parce que des clématites, on en voit partout, on a l'impression que ça se répand assez facilement.
Non, c'est une maladie assez fréquente.
Ah bon, d'accord.
Malheureusement, mais qu'est-ce que c'est beau les clématites.
Ah, c'est magnifique.
Mon pépé avait une clématite Nell Limoser, magnifique, et il est vrai que je n'ai jamais entendu parler du moindre problème. Pour ça que de temps en temps, je suis en contradiction avec les livres ou internet sur l'entretien à prodiguer à certaines plantes. On va vous parler que la clématite, il faut la tailler à telle ou telle période de l'année. Mon grand-père n'a jamais donné un coup de sécateur dans l'année limosaire. Elle était d'une beauté grandiose.
Et la clématite, le long du mur, il faut lui donner un grillage, je crois, pour qu'elle puisse grimper.
Tout à fait. S'accrocher. Et se souvenir, et ça c'est très important, il y a un dicton qui dit de la clématite, pied à l'ombre, tête au soleil. Il faut toujours protéger le pied des rayons du soleil.
Georges vous demande, Alain Baraton, quand faut-il tailler l'Althéa ?
Eh bien, il faut le tailler en hiver, maintenant, non pas au printemps.
C'est quoi déjà ? Parce que moi, je vois pas
l'Althéa,
ce que c'est.
L'Althéa, c'est l'hibiscus. C'est une plante qu'on appelle également mauve en arbre. C'est une plante qui produit des fleurs en forme de corolle, le plus souvent jaune. Oui, il y en a, mais c'est surtout blanc, bleu, violet, il y en a beaucoup. Eh bien, c'est maintenant qu'on va pouvoir la tailler, parce que en taillant maintenant, ça encourage le végétal à produire de nouvelles pousses l'an prochain, et les fleurs se développent sur les nouvelles pousses. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire, et certainement pas au printemps. Trop de jardiniers ont tendance à commettre cette erreur.
Et si on le fait trop tard, il se passe quoi ?
Eh ben, il se passe pas grand-chose, mais c'est quantité.
Ça pousse pas quoi, je veux dire.
Non,
ça,
mais
ça
la
pas.
Taille, c'est partout. Il faut être prudent. Il y a quantité d'arbustes qui n'ont jamais vu de sécateur qui sont grandioses.
Non, mais aidez-nous parce qu'on a toujours peur de tailler en fait.
Oui, mais non, mais justement, je dis pas trop. Le sécateur devrait être plus contrôlé.
Quelques secondes encore, Alain, pour un dernier conseil.
Une histoire des jardins, c'est des jardins potagers. C'est signé Yves-Marie Alain. On parle de tout. L'historique, les acteurs du jardin, l'évolution. C'est publié aux éditions Quoi et 26 euros. Un très joli cadeau à faire.
À demain, Alain Baraton.